Je suis à la fois ravi d'être avec vous, je connais pas mal d'entre vous, et honoré de votre invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Pour compléter l'exposé du président, donc je suis actuellement conseiller du président de la SFEN. Je ne sais pas s'il suit mes conseils, mais enfin je suis un de ses conseillers. Vous savez que tous ceux qui ont eu une responsabilité à la SFEN, responsabilité de délégué général ou comme moi de responsable de l'information, études, communication, on se retrouve ensuite pendant quelque temps conseiller du président. Voilà, j'ai également été pendant 6 ans au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. J'étais collègue avec Marc Lerette, que vous connaissez. Et donc, au cours de ce mandat de 6 ans, j'ai tout particulièrement étudié la question des déchets. On a fait des groupes de travail. On a eu des missions du côté de Bure et dans d'autres endroits où on prévoyait et on prévoit toujours d'implanter un centre de stockage pour les déchets de très faible activité Vilang. Et donc, je dirais une bonne partie de ma connaissance de la question des déchets vient du fait que j'ai fait ces 6 ans dans ce haut comité où j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, tous les gens de l'ANDRA, des gens d'EDF chargés de la question des déchets, du CEA, et y compris des gens à l'étranger. Parce que, comme j'aurai l'occasion de le dire, l'étude sur le stockage des déchets les plus radioactifs, les plus dangereux, disons les déchets de haute activité, cette étude, elle est menée en France, certes, mais dans 6 ou 7 pays qui ont acquis un bon niveau d'avancement sur ce thème-là. Et donc, j'ai pu, auprès de tout ce panel diversifié, acquérir quelques connaissances et bâtir ma propre réflexion. Parce que ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Merci beaucoup, il marche celui-là. Oui. Oui, eh bien, est-ce que ça marche? Oui. Donc il faut que je l'approche, mais pas trop quand même. Ce que je vais vous dire n'engage que moi. C'est ma réflexion personnelle, c'est une conviction personnelle sur cette question des déchets. Alors, pour le titre, ça ne marche plus. Pour le titre de cet exposé, comme vous le voyez, j'ai repris le titre de mon livre qui est sorti à la fin de l'année dernière. Parce que j'aurai une démarche à peu près identique que dans mon livre. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une présentation complète, globale, exhaustive de la manière dont on gère en France les déchets nucléaires. Mais je vais avoir une approche plus orientée, essentiellement axée sur les déchets les plus dangereux. À vie longue, haute activité. Et essayer de répondre à la question que... On peut se poser légitimement, que le public se pose, ces déchets, quel risque pour les personnes et pour l'environnement, maintenant, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Essayer de répondre à cette question. Alors, j'aurai 4 têtes de chapitre. Hein. D'abord, je ferai un petit panorama. Est-ce qu'il va marcher?
Oui.
Eh oui, il marche. Formidable. D'abord, je vous ferai un petit panorama sur la gestion des déchets nucléaires en France, mais un panorama très, très, très rapide. Ensuite, les deux chapitres suivants, ce sera sur le stockage géologique. Qu'est-ce que c'est, comment on fait et quel peut être l'impact, quels sont les risques présentés par un tel stockage. Et enfin, des considérations sur ce que j'appelle la querelle des déchets nucléaires, c'est-à-dire... essayer de voir un peu toutes les idées qui circulent, tous les arguments qui s'échangent dans ces débats, Les contre-vérités, les idées reçues, malheureusement, dans ce domaine, il y en a énormément, vous verrez. Et comment on peut répondre à tout ça pour avoir une information crédible et objective. Alors, je vais aller vite dans cette première partie parce que je vois que vous êtes tous... vous avez quand même une connaissance assez élevée du nucléaire et de cette question. Alors, les déchets, moi je dirais déchets nucléaires ou déchets radioactifs, j'emploie les deux mots indifféremment. Bon, alors c'est des substances qui ne peuvent être utilisées et qu'il faut stocker parce que c'est radioactif. C'est des outils, des vêtements, des plastiques, de la ferraille. Et c'est aussi, et ça va nous intéresser plus particulièrement, les cendres de l'uranium qui a été utilisé pendant 3 ou 4 ans dans le cœur de la centrale nucléaire et qui se transforme, il se transforme en un certain nombre de radioéléments qui sont des déchets. Alors leur danger, c'est ils sont radioactifs, ils émettent des rayonnements et ils peuvent présenter un risque. Producteurs, il y a plus de 1000 producteurs de déchets nucléaires en France. Le plus important, c'est EDF, suivi d'Areva, le CEA également en produit. Et ça nous fait, si on fait la statistique de combien de déchets nucléaires par habitant, comme on fait cette statistique pour d'autres éléments industriels, ça fait un peu moins de 2 kg de déchets nucléaires par an et par habitant, contre à peu près 100 kg par an et par habitant de déchets toxiques essentiellement chimiques. On ne croule pas sous les déchets nucléaires. L'origine, c'est essentiellement l'industrie, mais vous voyez que l'industrie, c'est les deux tiers. Il y a d'autres secteurs d'activité, comme la recherche, la défense, l'industrie non électronucléaire et le médical, qui produisent ces déchets. Alors ces déchets, pour leur appliquer une gestion adaptée, il faut bien les classer. En France, on a deux critères de classification. On voit quel est leur niveau de radioactivité et quelle est leur durée de vie. Leur durée de vie qui, comme vous le savez, dépend de la période radioactive propre à chaque radioélément contenu dans le déchet. Alors, un peu arbitrairement, on dit que les déchets qui ont une période, une demi-vie de moins de 31 ans sont des déchets à vie courte et au-dessus de 31 ans sont des déchets à vie longue. Bon, il faut reconnaître que c'est un peu arbitraire. 31 ans, c'est la demi-vie du sodium 137. Alors, avec ces deux critères de classification, on arrive à ça. On arrive à 5 différentes catégories de déchets qui ont toutes, comme je l'écris sur la diapo, des solutions de gestion différentes. Volume actuel, 1 500 000 mètres cubes, le déchet plus le conditionnement. Il faut savoir que le conditionnement, dans les déchets qui nous intéressent, là, les plus suavilants, conditionnement est nettement plus volumineux, nettement plus lourd que le déchet lui-même qu'il renferme. Je reviendrai très rapidement sur ces différentes catégories de déchets, mais avant cela, je voudrais dire un mot sur l'ANDRA, sur l'organisme qui est chargé de gérer ces déchets, de les stocker. L'ANDRA, c'est Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, c'est 600 collaborateurs, c'est une entreprise publique et elle a la responsabilité de stocker des déchets, pas de les traiter, de les conditionner. Ceux qui les traitent et les conditionnent, c'est les producteurs. Quand un producteur produit des déchets, c'est à lui de le traiter, de le mettre dans un fût, etc. L'ANDRA prend ce colis, comme on dit, à charge pour elle ensuite de le stocker, de l'entreposer, de faire... Je ne dis pas ce qu'elle en veut, parce que tout ça est très réglementé, mais elle n'intervient qu'à ce stade-là. Alors, si on passe ces déchets en revue très rapidement, déchets de très faible activité, voyez le pourcentage que j'ai mis en face du titre, c'est ce qu'ils représentent en volume. C'est 20% à peu près. Ils proviennent essentiellement du démantèlement des installations nucléaires, ferraille, plastique, gravats, etc. On les met dans des fûts métalliques ou dans des grands sacs. On les stocke en surface et il y a un centre pour eux, c'est le centre de Morvilliers dans l'Aube. Déchets de faible et moyenne activité à vie courte, alors ça c'est de très loin le plus important volume de déchets. C'est des vêtements, des outils, des gants, etc. Alors ces déchets on les met dans des conteneurs ou en métal ou en béton, ils sont compactés. On les stocke en surface dans des ouvrages bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés visiter c'est le centre de la Manche qui est fermé maintenant parce qu'il est plein. Et il y a un autre centre à Soulaine qui accueille ces déchets en surface avec quand même des aménagements très 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 consolidés, je dirais. Alors viennent maintenant les déchets. Faible activité, vie longue. Alors, c'est les déchets radifères et graphites. Radifères, ça veut dire qu'ils contiennent du radium, parce que dans l'industrie, certains équipements, etc., contiennent du radium. Donc, on stocke ces déchets. C'est les déchets de graphite qui proviennent du démantèlement de nos réacteurs de la filière graphite-gaz. Il y a aussi des objets radioactifs divers et variés, des montres au radium, des sources scellées comme les paratonnerres, etc. Alors, ces déchets, ils sont entreposés parce qu'on doit réaliser pour eux spécialement un centre pour leur stockage. Étant donné que ce sont des déchets à vie longue, on estime que ce centre de stockage doit être fait à faible profondeur.
Alors. Et aujourd'hui, ils sont stockés où ?
Alors, aujourd'hui, ils sont stockés chez les producteurs et chez divers industriels qui ont fabriqué ces paratonnerres, qui ont fabriqué ces sources scellées. Ça peut être des sources scellées médicales. On a recueilli aussi, et il y en a même chez des particuliers, des montres au radium, hein, des montres luminescentes qui contiennent du radium. Voilà. Enfin, voilà des déchets moyenne activité vie longue, c'est 3,6% du volume total, et ce sont des déchets qui sont constitués essentiellement par des éléments qui ont été au contact direct de l'uranium dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire on appelle ça les coques, les embouts, les gaines, qui a contenu l'uranium. Ils sont radioactifs, assez, moyennement, mais enfin, c'est une radioactivité non négligeable. Ils sont pour l'instant entreposés sur leur site de production. Ils sont compactés sous forme de galettes et on les met dans des colis en béton ou en métal. Et, comme je le dis dans la dernière phrase de la diapo, c'est un centre de stockage profond qui est à l'étude pour ces déchets. Quand je dis centre de stockage profond, ça veut dire à moins 400, moins 500 mètres, et on va en parler assez longuement tout à l'heure. Alors, avec ces déchets vie longue, de moyenne activité, les déchets haute activité. Les déchets de haute activité, vous voyez que c'est 0,2% du volume total. Mais c'est 96%, oui, 96-97% de la radioactivité, de la totalité des déchets nucléaires produits en France. Ça veut dire qu'ils sont très, très radioactifs. c'est la contrainte majeure pour l'industrie nucléaire. Alors, ces déchets, ils sont composés de produits de fission et d'actinides. Produits de fission, c'est quand il y a une fission de l'atome d'uranium qui se sépare en deux, ça peut donner du césium, du strontium, de l'iode, du chlore, etc. Les actinides, c'est quand l'atome d'uranium impacté par un neutron ne fissionne pas, mais capture le neutron et grossit et devient un autre atome. Ça peut être du curium, de l'américium, du neptunium, etc. Donc les déchets de haute activité dont je vais parler essentiellement, là, vous voyez que c'est un mélange, on peut dire un virulent mélange, de produits de fission et d'actinides. Et quand dans mon livre je dis où est le problème, c'est à ces déchets-là que je pense et à eux que je fais référence. Alors, ces déchets de haute activité, ils sont calcinés et incorporés intimement à une matrice de verre. Et on introduit ce mélange dans un conteneur en acier spécial. Donc, ils sont entreposés sur leur site de production et ils sont éligibles à CIGEO, Centre de stockage en profondeur, dont la construction est projetée. Et alors, ça se présente à peu près comme ça. Vous voyez à gauche un bloc vitrifié. C'est un bloc solide. Qui a cette apparence et qui est enfermé à l'intérieur de ce conteneur qui fait à peu près 1m30. Hein. C'est ce conteneur, ce colis qui sera envoyé à CIGEO. Alors, je voudrais faire deux remarques. Là, j'ai fait une présentation très très rapide. Je fais deux remarques. Première remarque, on sait quoi faire des déchets nucléaires. Contrairement à l'idée qui circule partout et qui est même dite et reprise par des responsables politiques, on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires, ces déchets nucléaires qu'on a sur les bras et dont on ne sait pas quoi en faire, c'est faux, on sait très bien quoi faire des déchets nucléaires. Ils ont tous, quelle que soit leur catégorie, ils ont un parcours défini et un point d'aboutissement défini, même s'il n'est pas encore réalisé pour certains types de déchets. Mais on sait quoi en faire. Et puis, deuxième remarque, on ne lègue pas à nos descendants une décharge sauvage d'ordures. On leur lègue, si on peut dire, un ensemble solide et résistant qui est conçu pour un confinement, pour un confinement durable. Alors, ces déchets à vie longue, déchets haute activité et déchets moyenne activité, comment les stocker? Là, je vais venir sur cette question parce que c'est assez intéressant de voir comment la décision finalement a été prise de les stocker, en couche géologique profonde. Alors, je mets deux lois, trois choix, un outil. Alors, les deux lois, vous connaissez sans doute la loi Bataille, qui a été votée en 91. Cette loi Bataille, elle est née du fait que beaucoup de responsables politiques ou au niveau EDF et Areva ont dit « il est temps de travailler à la construction à la réalisation d'un centre de stockage pour ces déchets, même si le temps ne presse pas trop. » C'est vrai que le temps ne presse pas trop parce que ces déchets, et notamment ceux de haute activité, il faut attendre qu'ils refroidissent quand ils sont conditionnés tout de suite après leur utilisation au réacteur. Il faut qu'ils refroidissent avant qu'on les mette dans un stockage final, refroidir pendant 60-70 ans à peu près. Donc, les responsables se sont dit, mettons à profit ce temps, parce qu'on n'est pas pressé, mettons à profit le temps disponible pour examiner les diverses solutions possibles. Et faisons-le pendant une quinzaine d'années. Et c'est ce qui a été fait. Trois solutions ont été particulièrement étudiées. La transmutation des déchets, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les atomes à la durée de vie la plus longue, c'est les actinides, et on va essayer de fabriquer des atomes à la durée de vie beaucoup plus courte. J'y reviendrai, là je vous fais une description un peu résumée. Le deuxième axe de recherche, ça a été le stockage géologique. Est-ce que ça présente un intérêt? Est-ce que c'est bien de stocker ces déchets à l'intérieur d'une couche géologique à 500 mètres de profondeur? Et le troisième axe de recherche, ça a été l'entreposage pérenne. C'est-à-dire qu'on va prendre ces déchets, on ne va pas les mettre en couche géologique, on va les garder à portée et les surveiller, en permanence. Voilà les trois axes de recherche. Et au terme de cette période de 15 ans, la loi de 91 avait dit « prenons rendez-vous pour 2006 », le rendez-vous a été tenu. Et en 2006, après débat et puis après vote par l'Assemblée nationale et par le Sénat, adoption par le Parlement, le choix a été fait du stockage géologique. Alors, quand j'ai dit trois choix stratégiques, je parlerai du stockage géologique, mais auparavant, je dois préciser que la France a fait, alors c'est pas lié directement au stockage des déchets, mais c'est un élément de notre politique énergétique nucléaire, la France a fait le choix du retraitement, du traitement recyclage. Autrement dit, on prend le combustible usé qui est resté 3 ou 4 ans en réacteur, il est usé, mais il n'est pas complètement épuisé, il contient encore des matières nobles pouvant encore produire de l'énergie. Donc ces matières nobles, uranium, plutonium, on les retire, on les sépare de ce qui est déchet. Et ce sont donc, en France en tout cas, les déchets ne contiennent pas d'uranium, bien sûr, ils ne contiennent pas de plutonium. Et ça, c'est important, parce que le plutonium, disons que c'est le radioélément le plus problématique sur le plan de sa durée de vie et de sa radiotoxicité. Il combine une très forte radiotoxicité et une longue durée de vie. Donc le fait de ne pas l'avoir dans l'inventaire global des déchets qu'on va mettre en couche géologique, c'est un très grand avantage. Le plutonium, on le recycle, on va le recycler dans les MOX, plus ou moins partiellement, plutôt plus partiellement en ce moment, et probablement un peu moins partiellement et un peu plus largement dans les années à venir, pour une éventuelle utilisation dans les réacteurs à neutrons rapides. Donc, les déchets de haute activité qu'on doit stocker ne contiennent pas de plutonium, c'est intéressant à dire. Le choix a été fait donc du stockage géologique en couche profonde. Le principe, comme je l'écris là, c'est d'isoler les déchets de la biosphère le temps que leur radioactivité est diminuée à des niveaux inoffensifs. Alors, si on reprend ce que je vous disais sur les axes de la loi Bataille, la transmutation, on a travaillé dessus, on a écarté cette solution, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas avec les produits de fission. En tout cas, on n'a pas trouvé le moyen que ça de changer les produits de fission, de réduire leur durée de vie. Ça marche avec les actinides. Mais ce sont des recherches qui ont été menées en laboratoire Et on ne se cache pas que ça va être extrêmement difficile d'organiser tout ça à l'échelle industrielle. Et on prévoit que ça pourrait peut-être déboucher industriellement dans les années 2030, 2040, 2050. Donc pour l'instant, ça reste une piste étudiée par le CEA, le CEA qui est numéro un mondial pour l'étude de cette séparation, transmutation. Mais pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt un horizon éloigné. C'est le stockage géologique qui a été choisi, pas seulement par défaut, parce que la transmutation n'est pas extraordinaire. Pour l'instant, on ne présente pas des perspectives immédiates. Disons que l'entreposage a montré quelques faiblesses, dans la mesure où on estime qu'il ne propose pas un confinement suffisant par rapport aux déchets, par rapport au stockage géologique. Et que laisser, disons, à portée de la main, si je puis dire, des déchets extrêmement radioactifs, les laisser comme ça en surface, dans un centre, pour des durées indéterminées. On ne sait pas ce que sera la société dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. On ne sait pas ce que seront les phénomènes climatiques, etc. Bref, on a estimé que entreposer en surface ces déchets, ce n'était pas une solution. Le stockage géologique, par contre, il offre l'avantage, il a trois avantages décisifs et que je vais essayer de dire rapidement, qu'on va voir à la faveur des autres diapos que je vais présenter. Mais disons pour l'instant, ces trois avantages, c'est un confinement extrêmement solide. Et vous allez le voir avec l'étude de CIGEO. Un confinement très solide. Une sûreté passive, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous préoccuper, une fois que vous avez fermé ce stockage, vous n'avez pas à vous préoccuper de sa sûreté. Il est intrinsèquement, si vous voulez, il fabrique intrinsèquement sa propre sûreté en fonction de son... de par son architecture. Et lié à cet avantage, un troisième avantage, c'est... ne pas laisser de... un avantage d'ordre éthique, si vous voulez, c'est de ne pas laisser le fardeau des déchets à gérer à nos descendants, à gérer aux générations futures, puisque c'est nous-mêmes qui bénéficions des avantages de l'électronucléaire, qui prenons en charge la gestion de ces déchets et leur élimination sûre. C'est nous-mêmes qui le faisons. On n'abandonne pas cette tâche-là à d'autres, à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces éléments de discussion, de comparaison des différentes possibilités, ce n'est pas qu'en France que ça a été étudié, ça a été étudié à l'étranger. Dans les pays les plus avancés, et tous les pays, et je ne vois pas d'exception, tous les pays concluent que c'est le stockage géologique qui est la méthode la plus sûre et la plus rationnelle. Quand je dis tous les pays, c'est la Finlande, la Suède, les États-Unis, la Suisse, la Belgique, et il faut savoir que l'Union européenne a fait une directive en 2011 en recommandant aux 14 ou 15 États de l'Union qui ont du nucléaire de prévoir un stockage géologique pour leurs déchets les plus radioactifs. Ce stockage géologique, il sera réversible. Je ne vais pas en parler pour l'instant, mais vous dire simplement, la réversibilité, ça veut dire ménager la possibilité à nos descendants d'éventuellement modifier ce stockage, lui apporter des améliorations éventuellement à la faveur de progrès techniques qui seront faits ou de retours d'expérience. Donc, ménager cette possibilité, de reprendre des colis, les traiter autrement, etc. Troisième élément de cette diapo, ce stockage géologique, pour l'étudier, il a fallu créer un laboratoire, en grandeur réelle, pour voir un petit peu comment la couche géologique à l'intérieur de laquelle on veut mettre ce stockage, comment elle réagit, quelles sont ses propriétés, quels sont ses avantages et ses faiblesses. Parce que l'idée, c'était, à partir du moment où les investigations menées sur un peu tout le territoire national au cours d'années précédentes avaient montré que dans une zone de Meuse-Haute-Marne, il y avait des couches géologiques qui auraient pu être extrêmement intéressantes. On a fait un centre de stockage là-bas de déchets en surface. Pourquoi ne pas faire également dans cette région ce centre de stockage? Il y a donc eu la volonté de la part des responsables, avant de prendre une décision de faire un centre de stockage là, d'étudier cette couche plus en détail. Et c'est ce laboratoire souterrain, je mets ici en grandeur réelle, qui a été aménagé depuis 1999. Il est carrément à moins 500 mètres. Il étudie donc cette couche de roche argileuse, c'est un argile qu'on appelle du calovo-oxfordien. C'est une couche qui est stable depuis 150 millions d'années, et on pense que pendant quelques milliers d'années, elle va rester stable et qu'il n'y aura pas de problème, évidemment. Elle fait 130 mètres d'épaisseur, elle est située entre moins 400 et moins 550. Alors il y a eu énormément de travaux pour expérimenter les caractéristiques de cette couche géologique, notamment sur le plan de la circulation de l'eau. Parce qu'on va voir que c'est l'eau qui est finalement l'ennemi numéro un ou quasi exclusif du stockage géologique. Alors, le laboratoire souterrain, il est, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Et on prévoit, dans une de ces trois zones, de construire le stockage, le centre de stockage, dans une de ces trois zones. Vous voyez, bon, c'est à cheval entre carrément à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne. L'architecture finale de CIGEO, je mets ouverture en 2025. En principe, c'est le calendrier. Est-ce que ce sera ouvert en 2025? On verra. Alors, ça va faire à peu près. Parce qu'il faut savoir que c'est un équipement que l'on conçoit de manière très, très évolutive et qui va encore évoluer dans les 10-15 ans qui viennent. Pour l'instant, c'est 15 km² en souterrain. Vous voyez, c'est quand même une surface non négligeable, avec deux installations de surface, pour le personnel et les équipements, et les colis qui vont arriver là, ils vont, par l'intermédiaire d'une descendrie, aboutir à CIGEO à moins 450 ou à moins 500 mètres. Cette descendrie, là, c'est un long tunnel de 5 km de long, de pente 12%. Les cyclistes peuvent se, avoir une représentation de ce que fait 12%, c'est à peu près ça. Hein. Et les colis seront transférés sur dans ce tunnel de 5 km, ils sont transférés par funiculaire. On a préféré le funiculaire au camion, parce que le camion, ça roule sur des pneus. Les pneus, ça peut être inflammable. Donc, on a préféré le funiculaire. Alors, 300 km de galeries et d'alvéoles. Les alvéoles, vous verrez, on va voir ça tout de suite, c'est les excavations faites dans la roche pour placer les colis de déchets. Et les galeries, c'est ce qui permet d'aller dans ces excavations, puisque les galeries, les alvéoles débouchent, sont perpendiculaires aux galeries. Donc vous circulez dans les galeries, les colis circulent dans les galeries, et ils sont ensuite transférés dans ces alvéoles. Les colis, vous voyez, il y en aura 58 000 de haute activité et de moyenne activité, il y aura 176 000 colis. Ça, c'est en fonction, ça prend en compte le fonctionnement de nos centrales nucléaires pendant 50 ans. 50 ans chacune, hein. Chaque centrale, 50 ans. On va se retrouver avec un certain nombre de colis. Et voilà ce que ça donnera. Alors, si JO sera réversible, j'irai très vite. Je vous ai déjà donné quelques éléments là-dessus. On pourra peut-être revenir au cours de la discussion. Cette réversibilité, évidemment, ne doit pas compromettre la sûreté. Et pour les ingénieurs, c'est un véritable travail, c'est un véritable défi, disons, un enjeu important de laisser ces équipements, cette architecture accessible tout en garantissant la sûreté une fois que le stockage sera fermé. Cette réversibilité, c'est pendant une centaine d'années au moins. Ça veut dire, en fait, que Cigéo restera ouvert et accueillera des colis de déchets pendant 100 ans, 120, 150 ans, c'est pas fixé encore, et que pendant toute cette période où il restera ouvert, c'est-à-dire la période d'exploitation, eh bien, ce sera la réversibilité sera possible. C'est-à-dire qu'on pourra reprendre un colis, on pourra reconstruire une alvéole, on pourra décider de donner d'autres formes à certaines alvéoles de déchets haute activité ou déchets moyenne activité vie longue. Voyez, donc tous ces éléments constitutifs du stockage pourront être revus. Et le stockage sera fermé par étapes ensuite. On attend, pour définir tout cela, une loi en 2016. Normalement, elle devait être votée, elle devait être présentée au début de l'année. Mais vu les situations un peu délicates où se trouve le gouvernement actuellement, il préfère ne pas se mettre ce problème sur le dos et donc reculer l'examen de cette loi. Voilà. Et on peut peut-être les comprendre. Hein. Alors, comment se présentent les colis à Cigéo ? Ça, c'est des colis. C'est des hottes de stockage pour déchets moyenne activité vie longue. Je vous rappelle qu'à Cigéo, il y aura moyenne activité vie longue et haute activité. Alors, 4 colis par enveloppe. Enveloppe, c'est-à-dire structure de protection en béton. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez en haut... En haut, là-haut, on voit c'est le couvercle, le conteneur et l'enveloppe de béton. Et alors, cette enveloppe de béton, on va la mettre. Alors là, vous voyez les alvéoles. qui sont perpendiculaires aux galeries qui sont ici. Donc, on va mettre dans ces alvéoles, on va empiler, comme ça se voit ici, ces hôtes de stockage. Vous voyez que l'échelle par rapport à l'individu, là, fait qu'une alvéole pour les déchets de moyenne activité fait à peu près 10 à 12 mètres de hauteur. Pour les déchets qui nous intéressent plus particulièrement, c'est-à-dire les déchets haute activité, je vous avais déjà dit qu'ils étaient dans un conteneur que vous voyez ici en numéro 1. Les blocs vitrifiés sont dans ces conteneurs. Une fois qu'ils arrivent à 6 GO, je parle au présent comme si ça existait, mais bon, parlons au présent. Une fois qu'ils arrivent à 6 GO, on les insère dans un autre conteneur qu'on appelle un surconteneur ou un conteneur de stockage. Tout ça pour augmenter la protection. Et ce que vous voyez en 3, c'est ce qu'on appelle des patins de glissement. Ça permet de faire glisser ces conteneurs dans ces alvéoles qui sont alors tout à fait différentes des alvéoles moyenne activité vie longue. Là, les conteneurs ne sont pas par enveloppe de 4, ils sont individuels. Et ils sont glissés horizontalement dans ces alvéoles avec, comme vous le voyez ici, bon, le robot pour pousseur, bon. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des intercalaires. C'est pour éviter des échauffements locaux excessifs. Donc si on met deux, trois colis côte à côte, ça peut induire un échauffement de la roche excessif. Donc on préfère séparer par des intercalaires inertes qui permettent de réduire la charge thermique.
Il n'y a pas de système de ventilation.
Alors, si, il y aura un système de ventilation. Dans la totalité de l'équipement, dans les alvéoles et dans les galeries, il y aura de la ventilation. Voilà les barrières artificielles. Et voilà la barrière naturelle de la couche géologique qui donc doit isoler durablement les déchets de l'environnement et de l'homme en retardant la migration des substances radioactives. On va voir quelle est cette migration. Cette migration, elle est d'une extraordinaire lenteur. Tous les travaux, que ce soit en France ou à l'étranger, dans ce type de roche, indique des déplacements de quelques centimètres, voire millimètres, pour 10 000, 20 000, 50 000 ans. Et c'est d'autant plus marquant qu'on choisit des couches, une couche géologique très peu perméable. On ne peut pas avoir des couches géologiques où il n'y a pas de circulation d'eau, c'est pas possible. Il y a toujours un peu d'eau, un peu d'humidité, mais on choisit évidemment les couches les plus perméables. Et dans ces couches-là, la circulation de l'eau, et on verra des radioéléments, est d'une lenteur, je dirais, qui confine à l'immobilité. C'est ce qu'on a constaté à Auclos, par exemple, dont je dirai un mot tout à l'heure. Alors, j'ai cru intéressant de reprendre ici l'avis de la Commission nationale d'évaluation, qui est une entité de 12 scientifiques indépendants français et étrangers, chargés de suivre les travaux CIGEO, notamment sur le plan de la sûreté, et de donner leur avis tous les ans sur le développement de l'équipement. Alors, ils ont dit, ils ont écrit dans un avis en 2013 qui fera date, les vers et la couche géologique sont des barrières efficaces pour des centaines de milliers d'années. Cette durée suffit à abaisser leur nocivité à un niveau tel qu'elle ne pose plus de problème pour les populations vivant au-dessus du stockage. Alors, cette phrase a été une phrase, je dirais, emblématique, symbolique, qui résume l'opinion quasi unanime de tous ceux qui ont travaillé à ce type de stockage, que c'est vraiment quelque chose de tout à fait crédible et que ça peut fournir une protection efficace. Alors ça repose, j'ai pas le temps de développer, mais tout ça, ça repose évidemment sur des études, sur des expérimentations en réel, sur ce qu'on appelle les analogues naturels. Quand vous allez sur des gisements d'uranium où il y a beaucoup de radioéléments qui ne sont pas de l'uranium et que vous regardez la progression de ces radioéléments, la progression de l'uranium, vous apercevez que dans certains environnements géologiques, ils sont scotchés sur place. À Oklo, par exemple, ça a été le cas. Peut-être que vous avez entendu parler du réacteur d'Oklo qui a fonctionné il y a 2 milliards d'années. Il a fonctionné pendant 1 million d'années et il a fait, c'était un réacteur nucléaire naturel qui a fait, qui a fissionné tout l'uranium présent. Et ça fait exactement comme dans nos réacteurs nucléaires, ça a produit des déchets. Et ces déchets, on en retrouve les traces très, très facilement. Et ça a facilement, disons qu'il a fallu, quand même pas mal de réflexion et de travaux pour s'en rendre compte. Mais finalement, les produits de fission et les actinides produits à Oklo, il y a 2 milliards d'années, ont bougé de quelques mètres. Voyez, et dans un environnement où l'eau est plus importante que dans les couches du Calovo oxfordien. Tout ça fait que on estime que la barrière rocheuse est une bonne protection. Et quand je parle du consensus, c'est ce dont je vous ai dit un mot déjà, c'est les conclusions des autres équipes à l'étranger qui travaillent sur ces questions-là et qui estiment que la barrière géologique bien choisie est extrêmement efficace. Alors, si on peut avancer un calendrier pour CIGEO, en 2018, bon, normalement, il doit y avoir une loi en 2016. Mais est-ce qu'elle veut ? Personne n'est capable de dire. J'ai passé plusieurs coups de fil. J'ai eu deux députés et on ne sait pas. Pourtant, la loi est prête. Elle est quasiment prête. Elle sera portée. Elle devrait être portée à l'Assemblée nationale par Jean-Yves Le Déo et peut-être au Sénat par Gérard Longuet. Voilà, donc est-ce que ce sera voté en 2016? On ne sait pas. Autre étape du calendrier, 2018, dépose par l'ANDRA de la demande d'autorisation de création. Vous savez que pour tout équipement comme ça, il faut obtenir l'autorisation des autorités publiques. Bon. Dans le meilleur des cas, début des travaux en 2020 et ouverture du centre en 2025 pour une première phase pilote. Une phase pilote qui peut durer de 5 à 10 ans, ce n'est pas encore fixé, où, dans un premier temps, on n'introduira pas de colis radioactifs. On introduira des colis inertes, non radioactifs, pour s'entraîner, pour s'exercer, pour voir comment tout ça marche. On va voir comment marche le funiculaire, comment fonctionnent les robots pousseurs à mettre dans les alvéoles, comment on se déplace dans les galeries, comment marche le système de ventilation, etc. Et ce n'est qu'après quelques années d'expérimentation en inerte qu'on accueillera les premiers colis qui devraient être accueillis vers, je sais pas, de 2030, 2035. On en reparlera à cette époque. Le coût, on reparlera aussi du coût. Je vais quand même vous dire deux mots sur le coût avant d'aller un peu plus loin sur la sûreté. Le coût, au départ, l'ANDRA avait dit 16 milliards. Bon. Ensuite, d'autres voies se sont élevées, et notamment la Cour des comptes, et également l'ANDRA, qui a refait ses calculs en prenant en compte un dimensionnement plus important de l'équipement. Alors là, on arrivait à 35 milliards d'euros. Et Ségolène Royal est intervenue pour retrancher 10 milliards. Et le ministère de Ségolène Royal donne une évaluation à 24 milliards d'euros. Alors attention, c'est des dépenses qui sont sur un siècle. Et c'est des dépenses, c'est pas seulement la dépense de création de l'équipement, c'est la dépense de son exploitation et des taxes qu'il devra payer aux communes environnantes, etc. C'est un global. Finalement, entre 24 milliards d'euros ou 35 milliards d'euros, on peut penser que c'est des sommes très importantes. Oui, c'est des sommes importantes. Mais si vous ramenez ça en moyenne annuelle, ça fait, disons, 300 millions, 280, 300, 350 millions en annuel sur 100 ans. Bon, c'est à comparer au chiffre d'affaires d'EDF, par exemple, qui doit être de 70 milliards annuels. Donc c'est tout à fait faisable. Comme investissement qui peut durer 100 ans et qui va induire une augmentation du coût de production du kilowattheure nucléaire de l'ordre de 1 à 2%. Là, ce sont les estimations de la Cour des comptes et tout le monde est à peu près d'accord pour s'entendre sur cette augmentation du coût de production du kilowattheure qui serait très 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 faible. En période d'exploitation, je mets ici 100 à 150 ans, stockage ouvert, c'est-à-dire Cigéo qui va accueillir ces colis, les risques sont liés principalement aux déchets de moyenne activité vie longue. Je passerai rapidement ça en revue. Incendie, explosion d'hydrogène dans les alvéoles, parce que un certain nombre de ces conteneurs utilisent du bitume. Et le bitume, vous savez, ça ne tient pas très bien à l'incendie ça peut provoquer dans un milieu radioactif des dégagements d'hydrogène un peu intempestifs, lequel hydrogène a la fâcheuse manie d'exploser quand il est très concentré. Donc on fait très attention à tout ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Risque de séisme très 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 faible parce que les effets d'un séisme ne vont pas à 500 mètres de profondeur. Perte d'électricité, transport, bref. Toutes les possibilités d'incidents ou d'accidents ont été étudiées et continuent de l'être par l'ANDRA. L'ANDRA qui est attaqué par les opposants au stockage géologique, notamment sur ce terrain-là. On verra que sur le... Oui, pardon.
Non. J'ai vécu une conférence anti-stockage, anti-CGO.
Oui.
Effectivement, l'explosion hydrogène est souvent mise en
évidence. Oui. Donc, les opposants privilégient les attaques sur Cigéo en exploitation. Par contre, Cigéo, une fois fermé, et au fil des siècles et des millénaires, il n'y a pas beaucoup d'attaques comme on le verra. Alors ces incidents, l'ANDRA elle-même dit qu'ils sont possibles, qu'ils sont même probables, parce que la période va être de 100 à 150 ans, et que dans une telle période, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas d'incident. Il y aura des incidents, mais ce qu'on peut garantir, c'est des conséquences limitées de ces incidents, pour un certain nombre de raisons, des compartimentages, des systèmes de ventilation, des systèmes automatiques de détection d'incendie et d'extinction d'incendie, etc., etc. Voilà. Et en cours normal d'exploitation, il y aura la ventilation de CIGEO sera relâchée vers l'extérieur avec des quantités absolument infimes. L'ANDRA donne 0,01 millisievert par an pour les populations les plus exposées. En fait, ils sont encore en dessous de ça. C'est pas ça qui pose vraiment un problème. Alors, moi, je voudrais refermer ce stockage et arriver à la période où le stockage est fermé. Je reviens aux déchets de haute activité pour voir un peu plus en détail leur confinement. Ils sont confinés dans une matrice de verre. Alors, vous savez que le verre, contrairement à ce qu'on croit, le verre c'est fragile, c'est pas du tout fragile, c'est un des matériaux terrestres les plus résistants. Et à mon avis, avis de journaliste, comme vous auriez dit, monsieur le président, à mon avis, ça a été une idée absolument géniale de la part des ingénieurs du CEA de prendre ces solutions de déchets et de les incorporer à une matrice de verre. Parce que la matrice, une fois incorporée à cette matrice de verre, les radioéléments sont carrément piégés. Ils font partie de cette matrice, ils sont piégés. Certains peuvent émettre encore, peuvent émettre des rayonnements, mais ils sont piégés à l'intérieur, ils ne peuvent pas s'en aller, sauf dans un cas dont je parlerai, celui de la lixiviation par l'eau. Alors, conteneur de la matrice de verre, un conteneur primaire en acier spécial, un surconteneur de stockage dont je vous ai parlé, l'alvéole dans laquelle le colis est inséré à l'horizontale, elle a elle-même un chemisage métallique pour une protection, pour éviter les déformations, etc. Et autre élément de confinement, pour compléter ce qu'on peut appeler un coffre-fort, hein, c'est la barrière rocheuse et sa couche d'argile dans laquelle sera implanté le stockage. Alors, ces blocs rocheux, qu'il faut s'imaginer, ces blocs rocheux dans leurs alvéoles, à 500 mètres sous terre, qu'est-ce qui peut se passer ? Rien. Rien ne peut se passer. Sauf, et c'est l'ennemi public, comme je disais, l'ennemi public numéro un du stockage, c'est l'eau, c'est l'action de l'eau. C'est, comme disait Stéphane Gien dans un livre qu'il a publié il y a quelques années sur les déchets nucléaires, s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait rien, il ne se passerait rien, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est l'eau. Et on fait l'hypothèse que l'eau, même s'il n'y en a quasiment pas dans cette couche d'argile, on fait l'hypothèse que l'eau va venir corroder toutes ces protections. Ça ne vous surprendra pas, vous qui êtes dans le nucléaire, parce que vous savez qu'en matière de sûreté nucléaire, on travaille toujours en posant les hypothèses les plus pénalisantes. En se disant, mais s'il y a vraiment un problème, un phénomène ou un équipement qui est complètement défaillant, qu'est-ce qui se passe ? Donc on doit poser ces hypothèses pénalisantes. Alors, À quoi faut-il s'attendre si l'eau vient corroder tout cet appareil, tout ce coffre-fort, si je puis dire, qui protège, qui renferme les déchets de haute activité. Alors là, c'est quelque chose qui doit se lire de bas en haut, que j'ai essayé de faire aussi clair que possible. Sauf que la descendrie, ce sera à CIGEO une descendrie en ligne droite, hein, ce ne sera pas une descendrie en spirale, comme c'est indiqué ici. Alors, si on prend par le bas, vous faites l'hypothèse d'une dégradation très lente des structures de confinement des déchets. Ça va durer des dizaines de milliers d'années, compte tenu du chemisage de l'alvéole, du surconteneur ou conteneur de stockage et du conteneur primaire. Et pendant ce temps, je mets décroissance de la radioactivité. Alors, on fait l'hypothèse d'une migration à travers la roche de radioéléments vers la surface. Les radioéléments, ils peuvent aller vers le bas aussi. Il y a plus de chances qu'ils aillent vers le bas. Hein, on dit toujours que ça va monter en surface. Ça va aussi descendre. Cette migration, ici, je mets quelques centimètres par millier d'années. Alors, on peut discuter. Certains disent qu'il faut parler de millimètres. Certains disent qu'il faut 1 ou 2 mètres tous les 100 000 ans. Bref. Tout ça pour dire que, aussi bien dans les études faites au Japon, en Finlande, en Suède, sur le Mont Théry, en Suisse, où il y a un argile qui ressemble à celui de Bure, les vitesses de déplacement des radioéléments et de l'eau sont de ces ordres-là, y compris quand il y a des failles, etc. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, migration très lente à travers la roche de radioéléments vers la surface. Des quantités très réduites de radioéléments rejoignent à très long terme l'environnement de surface. La plupart des radioéléments auront disparu, seront devenus des atomes stables, ne seront plus radioactifs. Ce qui peut revenir au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années dans des aquifères de surface, c'est les produits de fission les plus solubles, les plus légers, les plus solubles, c'est-à-dire du chlore, du sélénium, essentiellement ce type de radioéléments. Mais il faut savoir que cette arrivée dans les aquifères de surface de ces radioéléments, elle va pas se faire instantanément. Évidemment, c'est pas instantanément que le bloc vitrifié va se dissoudre sous l'action de l'eau qui va l'atteindre. Il va se dissoudre, ce bloc vitrifié, pendant des... On avance le chiffre d'un million d'années, l'Andra avance le chiffre de 400 000 ans. Vous voyez, donc tout ça est très lent. La dilution sera extrême du fait de cette lixiviation très lente. Extrême dilution, donc... Impact radioactif très faible. Selon le scénario le plus pénalisant, faible impact inférieur à la dose limite admissible, puisque les autorités de sûreté ont demandé que ce soit inférieur à 0,25 millisievertes, c'est-à-dire le dixième de la radioactivité naturelle. Les doses auxquelles pourraient être exposées les populations riveraines sont nettement inférieures à ça. Alors, on a fait les hypothèses encore pénalisantes, ce que je viens de vous présenter, c'est le scénario d'évolution normale du stockage. Là, c'est les scénarios altérés. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, l'hypothèse d'une défaillance des conteneurs et qu'ils commencent à relâcher des radioéléments au bout d'un siècle. Au bout d'un siècle, c'est les calculs faits par l'ANDRA, et non pas au bout de dizaines de milliers d'années. On fait l'hypothèse de défaut de scellement des alvéoles, des galeries, circulation d'eau plus abondante et beaucoup plus rapide, mais sachant que ça ne peut pas avoir des allures de torrent, évidemment. Hein. Et on fait même l'hypothèse d'une défaillance simultanée de toutes ces barrières, et on n'arrive pas à dépasser les 0,25. On est même nettement inférieur à 0,25 millisievert par an. Ce sont des valeurs qu'on rencontre aussi dans les études au Japon, dont j'ai pu voir le résumé, études en Finlande, études en Suède. Autrement dit, alors ça je vous le dis, mais si je le dis dans une réunion publique avec quelques antinucléaires là, je me fais envoyer des pavés. Il n'y a pas de scénario catastrophe pour un stockage géologique. Pas de scénario catastrophe. Personne n'a, y compris les antinucléaires, les anti-stockages géologiques, ils n'ont jamais fourni le scénario qui montrerait que ces stockages sont un crime contre les générations futures, comme le dit Sortir du nucléaire, que c'est épouvantable, que les gens qui sont à côté vont subir des doses de radioactivité épouvantables. Bon, mais quand on leur dit mais comment, il n'y a pas de scénario. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de démonstration crédible. Alors, je parle des opposants. Je vous invite, dans la prochaine diapo, à lire un petit poème fait par une opposante au stockage géologique qu'elle a lu à Lyon, c'était en 2005, lors du débat national sur les déchets. Et j'étais en tribune à Lyon, elle était juste à côté de moi. Je ne dis pas que le poème était dédié, mais presque. Enfin, je l'ai pris un petit peu pour moi. Voilà, ce poème, il est là, que je lis. Hein, « Ces assassins irresponsables, nucléocrates et politiques assoiffés de pouvoir et d'argent, ça c'est vous, hein, et qui chaque jour nous empoisonnent impunément, ont décidé de poursuivre leur œuvre diabolique. Terre refuse cette mortelle semence, un jour victime innocente de nos enfants, nos enfants paieront de leur vie et tous leurs descendants. » Poème diffusé au débat national, sous les applaudissements enthousiastes de la salle. Il y avait à peu près 150 personnes. Alors, quand elle a récité son poème, tout le monde applaudissait. Parce que, voilà. Mais ça, tout ça pour dire que dans ce débat sur les déchets, les positions des gens sont souvent tout à fait viscérales. Et on a beau essayer d'expliquer et de rassurer peut-être, on n'y arrive pas parce qu'il y a vraiment des positions qui sont très, très ressenties intérieurement, viscéralement. Hein. Pourtant, moi j'ai trois arguments pour une confiance raisonnée dans ce stockage. La forte capacité de confinement du stockage, bien au-delà du temps où la radioactivité des radioéléments aura décru vers des niveaux inoffensifs, pas de phénomène brutal, mais des phénomènes lents et dilués. C'est ce que je disais. Un centre de stockage, ce n'est pas une centrale nucléaire. Il n'y aura pas, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, de la radioactivité qui va brusquement se répandre dans l'environnement. C'est physiquement impossible.
Oui, excusez-moi. Oui, vas-y. Dans les Antilles, à la conférence où j'ai...
Oui.
Ils disent, enfin, ils disent ce qui est faux, bien sûr, on le sait, qu'il y aurait des stockages de combustible. Donc, avec là, des risques de criticité.
Ah, ça, j'en passais les meilleurs, ça c'est autre chose, oui. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Absolument.
Ah, oui. Bon, excusez-moi.
Oui, mais je vous en prie. On pourra en reparler. Donc, le dommage le plus grave indiqué, étudié en France et à l'étranger, le dommage le plus grave d'un stockage géologique, c'est pas une irruption brutale de radioactivité dans l'environnement, c'est pas ça, c'est des radioéléments, comme je disais tout à l'heure, qui vont dans les aquifères, mais à des rythmes tellement lents, avec une telle dilution, que finalement, ça va pas, ce sera pas un crime contre les générations futures, ça s'en apercevra même pas. Et autre élément de confiance, c'est le consensus technique, j'en ai parlé, des experts des différents pays et de l'Union européenne. Alors je passe le poème et j'arrive à ça, en conclusion, si vous voulez. Alors, c'est notre façon à nous de signaler les endroits où on a enfoui des déchets radioactifs. Voilà. Il y a énormément d'idées reçues qui circulent sur la question des déchets. Elle est plus viscérale que la question d'une centrale nucléaire. Au cours des débats auxquels j'ai participé en 2005-2006 et 2013, et au cours de tous les autres débats que j'ai pu avoir, là c'était deux débats nationaux officiels, des autres débats, rencontres que j'ai pu faire, etc., j'ai noté ces quatre idées reçues comme revenant le plus souvent. On ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. Je vous en parlais tout à l'heure, oui. Effectivement, les gens disent on ne sait pas quoi faire. Bon, voilà. Ça, c'est une idée qui est largement répandue et qui agace prodigieusement ceux qui travaillent dans le domaine des déchets, parce qu'on nie carrément leur contribution. Hein. Le rayonnement des déchets stockés à moins 500 mètres va nous irradier directement en surface. Ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. L'idée que le fait de mettre à moins 500 mètres, eh bien, il va y avoir quand même des rayonnements de la radioactivité qui va irradier les gens qui sont au-dessus. Bon. Non. Alors, il faut expliquer que c'est arrêté par le conteneur et quelques mètres de roche pour les rayonnements les plus pénétrants. Mais ça, vous pouvez toujours expliquer. Ils seront radioactifs et menaceront nos descendants pendant des centaines de milliers d'années. Alors là, c'est vrai que ça va rester radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Donc, il y a une ambiguïté là-dessus. Mais quand ils disent radioactif pendant des centaines de milliers d'années, ça veut dire et ça va créer des dommages, des contaminations irréversibles, etc. Attendu que je reviens pas là-dessus, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et ils vont empoisonner la terre. Alors c'était dans le poème, terre refuse cette mortelle semence, je crois, va empoisonner la Terre, sauf que la Terre, c'est un immense déchet radioactif. Au bout de... Il y a une radioactivité présente dans le sous-sol très importante, hein, c'est ça qui donne à peu près 70 à 75% de la chaleur qu'on a quand on descend, pour ceux qui ont fait de la spéléologie, eh bien c'est la radioactivité. Et j'ai pu calculer avec Pierre Besselu, qui est peut-être certains d'entre vous le connaissent, un collègue de la SFEN, que la radioactivité représentée sur une surface de 15 km² avec 500 mètres de profondeur devient, au bout de quelques centaines d'années, plus importante que la radioactivité des déchets qui sont dans le stockage. Donc, dire que ça va empoisonner la Terre, c'est encore une idée fausse, mais c'est très répandu. Et je vous souhaite bien du plaisir pour extirper cette idée des esprits de nos contemporains. Enfin, je terminerai en disant que le problème des déchets nucléaires appelle une réflexion éthique. Parce que les gens disent « ça va porter préjudice aux générations futures, c'est criminel d'enfouir ça sous la terre, etc. » Ça appelle une réflexion éthique. Mais une réflexion éthique, ça veut dire qu'il faut prendre en compte tous les éléments du problème. Quand vous prenez en compte tous les éléments du problème, vous vous dites que les déchets, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Les déchets, c'est la résultante d'un processus de production électronucléaire qui, par ailleurs, est très favorable, empêche une forte pollution de l'environnement. Autrement dit, les déchets, c'est le côté obscur de la force, comme on dirait dans Star Wars, mais cette force, elle a aussi des côtés intéressants. Ils sont la contrepartie, ces déchets nucléaires, d'une production électrogène qui ne pollue pas l'environnement. Alors, moi, j'ai fait le petit calcul que je reprends dans mon bouquin. Si vous prenez depuis 40 ans, si vous prenez depuis 40 ans la production électronucléaire en France, vous apercevez que dans la mesure où elle s'est substituée aux combustibles fossiles, il y a à peu près 10 milliards de tonnes de CO2 qui ont été économisées. Et si vous prenez tous les déchets de CIGEO, là c'est les déchets produits à ce jour, vous prenez tous les déchets à CIGEO, vous pouvez doubler le chiffre de 10 milliards. Donc ce n'est pas négligeable. Par ailleurs, en se substituant aux combustibles fossiles, les réacteurs nucléaires évitent la pollution due à ces combustibles fossiles. Et cette pollution, je vous rappelle tout simplement qu'une centrale au charbon de 1000 MW, ça rejette 6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, 30 000 tonnes de dioxyde de soufre, 15 000 tonnes de dioxyde d'azote, 6 000 tonnes de particules fines et de poussière. Cette pollution chimique des combustibles fossiles, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que ça fait 7 millions de victimes par an. Des études plus précises ont été menées, dont vous avez peut-être entendu parler, concernant les décès évités grâce au remplacement des combustibles fossiles par le nucléaire au niveau mondial. Études menées par le Goddard Institute, et qui n'a pas été démenti, 1 840 000 décès évités. En France, c'est 290 000 décès évités grâce au remplacement des combustibles fossiles. Bon. Tout ça pour dire que les déchets, certes, ce n'est pas anodin, c'est une contrainte, ça présente des risques, oui, mais c'est la contrepartie d'un processus électronucléaire qui peut être, sous certains aspects, plus vertueux que d'autres. Et c'est ce que disait l'Académie de médecine en 2003, qui a fait une étude assez poussée là-dessus. Par kilowattheure produit, c'est la filière nucléaire qui a le plus faible impact sur la santé. Donc il fallait le dire, et il faut avoir ça à l'esprit. En guise de conclusion, je dirais que les déchets nucléaires, même les plus radioactifs, sont gérables dans de bonnes conditions de sûreté. c'est pas une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des générations futures, pas de menace perpétuelle au-dessus de la tête de nos descendants. Et enfin, dans un domaine où la dimension sociétale est majeure, et c'est vrai, on vient de le voir, le problème, c'est pas seulement celui des techniques, parce que les techniques, on les maîtrise assez bien. Le problème, c'est aussi celui de l'information du public. Parce que l'information du public, c'est encore plus dur que de trouver un alliage qui résiste un peu plus longtemps à telle ou telle agression. Voilà ce que je voulais vous dire, vous remerciant de votre attention. Merci. Bon, merci bien.
Merci beaucoup pour cet exposé bien synthétique. On peut passer aux questions si vous avez des questions à poser. Oui, vas-y. Hein.
J'ai une question. Donc, à l'époque du Superphénix, on disait beaucoup que l'intérêt de Superphénix était de brûler le
plutonium, oui. Absolument.
Et est-ce que c'est.
Oui. Alors, dans les techniques de. Pardon. Dans les techniques de séparation-transmutation des actinides, il y a effectivement un passage en réacteur à neutrons rapides. Parce qu'avec les réacteurs des filières classiques traditionnelles actuellement en service, ça ne le fait pas. Dans les réacteurs à neutrons rapides, les réactions de fission et le plutonium font qu'on peut plus facilement brûler les actinides. Voilà. Bon. Voilà. Cela dit, à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on fera, qu'on brûlera massivement les actinides dans 10 ou 15 réacteurs à neutrons rapides qu'on aura construits en France.
Mais les réacteurs à neutrons rapides n'en produisent pas.
Si, ils en produisent. Si, ils en produisent, mais moins. Bon, je sais pas combien moins, mais.
D'autres questions ?
Oui, en matière d'information, vous avez effectivement fini par ça, ce qui est l'aspect le plus difficile. Je crois qu'il faut. C'est très difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on tape dans le subjectif, l'affectif, et pour passer de l'affectif à la raison, on sait à chaque fois qu'on fait de l'information, c'est extrêmement difficile. Mais je crois qu'il faut surtout ne pas prêter prise à des informations qui ne sont pas données, sans vouloir les cacher. L'affaire des accidents de personnes à CIGEO, tout de suite on s'appuie dessus, quoi, parce qu'on ne nous l'a pas dit, ou on nous l'a dit avec du retard, etc. etc. quoi, hein. Bon, et ça c'est extrêmement mauvais, parce que ça donne prise à des réactions négatives.
Bon, je suis assez d'accord, mais sur ce plan-là, je dirais une chose. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet accident qui a coûté la vie à deux personnes. Il y a eu une erreur de communication fondamentale. Puisque le premier communiqué d'explication de la part des autorités, ça a été, il y a eu à CIGEO, enfin dans le creusement du laboratoire souterrain, plus exactement, il y a eu un éboulement. Le mot a été... Donc, éboulement, ça veut dire que vous nous dites que vous voulez construire... Vous voulez construire un centre de stockage dans un endroit où il y a des éboulements. Voilà. Alors, ça, c'est, comme vous dites, c'est une erreur de communication qui donne prise à toutes les interprétations. Et les anti-stockages ne sont pas privés de le dire. De dire, mais comment, c'est pas possible. Non. Attendu que ce n'est pas un éboulement qui a eu lieu. C'est un accident... classique, malheureusement, qu'on voit dans les mines, quand vous creusez, il y a des blocs qui se détachent, forcément. Et là, les précautions n'avaient peut-être pas été prises pour les deux ouvriers qui étaient là.
Mais alors, par ailleurs, vous avez dit, bon, c'est vrai, mais pas tout à fait, qu'il n'y avait pas de plutonium dans les déchets.
Il y en a des traces. Il y en a des traces.
Eh oui, mais il faut l'avouer. Qu'est-ce que ça peut faire de l'avouer?
Ah, je veux bien l'avouer.
On sait qu'il y en a pratiquement peu et ça ne peut pas poser de problème.
Moi, je veux bien l'avouer sous la torture. Non, mais je l'avoue. Non, je l'avoue.
Par exemple, de commencer en disant oui, les déchets radioactifs de haute activité, c'est pas simple. Bon, ben ça, je crois qu'il faut l'admettre. C'est pas simple.
Ah non, c'est pas simple.
S'il n'y a pas de produit de fission dans le nucléaire, on serait vraiment tranquille. Hein. C'est quand même pas simple à gérer. Moi, je crois qu'il faut l'admettre. Bon, puis après, on parle de tout ce que vous avez dit à la fin, qui est fondamental, sur le plan de l'éthique et sur le plan des vrais risques.
Et c'était surtout pour signaler qu'une grosse partie du plutonium est recyclée dans les centrales classiques.
Ah bah bien sûr,
oui.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de PV dans les déchets.
Oui, mais on pourrait donner des lignes impliques qu'on postule qu'on va le brûler un jour.
Alors, le plutonium, pour l'instant, on le garde sur étagère. On le garde sur étagère. En fait, il a deux utilisations. Où on le garde sur étagère? En prévision du futur parc de réacteurs à neutrons rapides, ou on le met dans les MOX. Et on va le mettre de plus en plus dans les MOX. En principe, si on regarde les 50 prochaines années, et si on fait l'hypothèse qu'on va construire quelques EPR supplémentaires dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on sera bien content d'avoir ce plutonium. Parce que les EPR, ils peuvent être moxés à 100%. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ça. Cela dit, oui, j'ai aucun mal à admettre que de dire qu'il y a des traces de plutonium dans les déchets. Il y en a beaucoup plus, évidemment, et même la totalité, quand on ne retraite pas et qu'on stocke les combustibles en l'état. Alors là, bon, on met une mine de plutonium en profondeur, c'est pas évident.
Oui, en fait, il y a, quand on parle au grand public, il y a les antinucléaires, on les oublie ceux-là, parce que ils sont parfaitement convaincus, ils savent très bien de quoi ils parlent, enfin bon, voilà, ils connaissent leur catéchisme par cœur. Puis il y a quand même les autres, il y a des gens honnêtes, et je pense en particulier à deux de mes amis qui ont eu un cancer de la
thyroïde.
De bonne foi, ils vous disent que ça vient du nucléaire et en particulier de Tchernobyl.
Et
c'est absolument impossible de leur démontrer le contraire.
Oui, je suis d'accord.
Essayer de les convaincre, pour eux, c'est Tchernobyl.
Surtout si leur médecin leur dit.
Oui, voilà.
En plus, oui.
Oui, les médecins.
Le médecin l'a dit, c'est quand même une vérité totale. Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est
extrêmement compliqué.
Comme je ne veux pas me fâcher avec mes amis, je ne discute plus de ça.
Dans les études d'un sanitaire post-Tchernobyl, ça ne touchait pas que les enfants, les cancers de la thyroïde.
Mais oui.
Le cancer de la thyroïde de l'adulte, il n'a rien à voir.
Mais comme dit monsieur, vous aurez beau dire que la recrudescence qu'on constate des cancers de la thyroïde en France, on la constate depuis bien avant Tchernobyl, et que ça intéresse tous les pays industrialisés, développés, y compris ceux qui n'ont jamais été touchés par le nuage de Tchernobyl. Bon, et puis que... Bon, mais ça passe pas. Non, ça passe pas. Il y a comme ça des éléments du débat qui sont figés et
On pourrait faire une discussion sur l'aspect effectivement socio-psychologique de ces problèmes de conviction que tu as un petit peu abordé et qui est une difficulté majeure. Hein.
Oui. Je voudrais rajouter une chose amusante en matière de psychosociologie. Il y avait l'affiche qui circule surtout autour de les conférences se font surtout dans Serbie. Il y en a une qui est donc venue ici, selon j'ai,
très proche.
Vous remarquerez que le président de l'association, c'est monseigneur, c'est un évêque, qui se fait abuser, entre parenthèses. Mais bon, c'est une personne qui, dans ce cadre, et ils appellent ça d'ailleurs des sociétés de réflexion, quelque chose comme ça. Mais bon, cet évêque, il se fait abuser, mais c'est une caution importante, qui pèse.
Tout à fait.
Bon, je vois, enfin, on va éventuellement poser quelques autres questions, mais je vois que Francis nous a apporté quelques exemplaires qu'on pourrait...
Ah, ouais, ouais.
Non, mais si, il faut parler. Ma longue expérience de l'UTB fait que, au moment, il y a des bouquins qui traînent, donc il faut en parler. Hein, parce que tu ne veux pas partir avec des bouquins, quand même.
Non, mais ça a été, on peut peut-être le dire, que ça a été acquis par... Je remercie énormément le groupe. Hein. C'est ici.
Je t'en prie, je t'en prie.
J'avais une question aussi.
Oui.
Vous avez dit que pendant 150 ans, on allait rendre réversible le
blocage. Oui, oui.
Est-ce qu'on sait...
150 ou 120, 130, c'est pas fixé encore.
En mémoire, pendant 150 ans, avec les moyens actuels, la traçabilité de tout ce qu'on leur a enfoui. On doit leur sortir et savoir d'où ça vient.
Oui, absolument. Il y a un travail énorme qui est conduit sur le plan de la mémoire. On va créer un centre près du stockage, un centre avec des archives où tout sera répertorié dans les moindres détails. Alors, on va utiliser des supports numériques, du papier et des supports plus solides, de manière à ce que ça puisse aller. Non, c'est pas...
Voilà. On m'avait indiqué que précisément c'était les supports papier qui étaient privilégiés.
Oui.
Et particulièrement des papiers qui avaient été faits à l'ancienne. Dont on
ah d'accord. Je ne savais pas ça.
Caractéristiques pendant plusieurs centaines
d'accord.
D'années.
D'accord. Je ne savais pas. Mais en tout cas, ce à quoi s'obligent les réalisateurs du stockage géologique, c'est avertir nos lointains descendants qu'il y a à tel endroit un dépôt dangereux. Voilà.
Qui a été dangereux.
Enfin, oui.
Sachant que ces archives-là, il faudra les protéger aussi précieusement que ce qui est enfoui. Mm-hmm.
Absolument.
Juste peut-être, on va retrouver une petite remarque. Je me souviens d'une conférence qui avait été faite par Pierre Schmitt et Jean Fluchère il y a quelque temps à Dijon, en Sciences Po, c'était. Et il nous avait dit, puisqu'il avait été patron de Superphénix et de Phénix, et il nous avait dit que finalement, il y avait très peu d'archives qui étaient de tout ce travail qui était resté. Et on est en train de réinventer, finalement, l'eau chaude, mais pas loin, quoi.
Oui, mais effectivement, mais c'est un autre problème, parce que, d'une part, il y a des réacteurs. Bon, c'est bien de conserver les archives, mais ça n'apparaît pas comme un problème, je dirais même philosophique, fondamental. Tandis que construire un équipement dont on sait qu'il va perdurer pendant des millénaires, là, ça pose le problème éthique de conserver la mémoire de cet équipement pour les générations futures. J'ajoute que si la mémoire de cet équipement est oubliée, ça ne veut pas dire que la sûreté va s'en trouver compromise. Puisque à partir du moment où l'équipement est fermé, il n'y a plus rien à faire.
Bon, alors, pour le prix de tes efforts,
je commence à fatiguer.
Donc, on a le plaisir de t'offrir un petit cadeau.
J'en suis absolument ravi, merci beaucoup.
On s'intéresse au nucléaire.
Oui.
On a quand même un violon dingre. Voilà, donc.
Merci infiniment.
Merci Francis.
Je boirai à votre santé à tous.
Oh, tu la boiras pas tout seul.
J'étais ravi de faire cet exposé. Très bien.
Plaisir à ma jeune fille.
Alors, est-ce que je vous